Comment osez-vous ? Podcast. Et vous ? Comment osez-vous ? Ce podcast mettra en lumière des personnalités locales qui vivent près de chez moi, en Bretagne, des personnalités bretonnes, d'ici ou d'ailleurs, et pourquoi pas aussi des personnalités nationales situées au-delà. Leur point commun, avoir osé, à leur manière, de manière singulière ou tout simplement de façon touchante. Je retrouve l'interview longue, celle qui donne le temps, qui donne le micro à celles et ceux qui entreprennent différemment, celles et ceux qui ont décidé de s'exposer autrement, qui ont eu une idée osée, une idée salvatrice pour eux-mêmes et pour d'autres. Oser avec des guillemets, car ce que je trouve osé n'est pas forcément osé pour vous et vice-versa. Effectivement, chacun a sa définition du verbe oser. Et c'est pour cela que nous rencontrerons, à travers ce podcast, diverses formes, diverses expressions. Pourquoi le verbe oser ? Peut-être parce que, comme l'annonçait Simone de Beauvoir, exister, c'est oser se jeter dans le monde. Sans doute parce que, comme sûrement les invités de ce podcast, selon moi, exister, c'est pousser des barrières, donner une contenance à sa vie. Exister, c'est se jeter d'une manière ou d'une autre. Oui, exister, c'est sûrement oser. Je suis Stéphanie, créatrice aujourd'hui de Poceo, P-O-C-E-O, création de podcast portrait sonore pour professionnels et particuliers, ancienne journaliste animatrice radio et puis réalisatrice de Comment osez-vous, ce podcast breton. Mon premier intervenant a fait le tour du monde à vélo. Il est originaire de Drouge, près de la Gerche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Constant Pelate, dit Étalep, sur les réseaux, a osé prendre son vélo, faire le tour du monde, réaliser d'autres projets autour de l'itinérance. Il a osé s'investir dans l'entrepreneuriat social, vivre autrement, et il a osé écrire le récit de son tour du monde à vélo, du rêve au guidon. Constant, c'est oser faire place à l'imprévu, oser faire confiance, oser créer un concept, la sédentinérance. Il affirme « Osez la peur, elle vous rendra meilleur ». Rencontre. Le 20 septembre 2019, Constant a décidé de faire le tour du monde à vélo. Il a osé et il a écrit l'ouvrage « Du rêve au guidon ».« Du rêve au guidon, sous mes yeux, mon tour du monde en 813 jours et 20 000 km ». Constant est en face de moi. Constant Pelate, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bah de rien. Alors Constant, est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer ? D'où tu viens ? Qui es-tu ?
Bah, je m'appelle Constant Pelate, je suis originaire de Drouge, un petit village dans le bassin vitréen. Et effectivement, je suis parti voyager à vélo en 2019, donc j'avais 24 ans à ce moment-là. C'était une aventure qui devait durer 6 mois, c'est ce que j'avais dit à mes proches au début. Et en fin de compte, je suis parti pendant un peu plus de 2 ans. Une aventure qui a forcément changé beaucoup de choses dans ma vie et j'en ai écrit ce livre « Du rêve au guidon ». J'ai mis 1 an et demi à l'écrire et je l'ai sorti en juin dernier. Et à côté, j'ai mené d'autres aventures à pied, à cheval, en canoë depuis. Et puis ça continue, quoi. Je vis un petit peu dans ce monde de l'aventure et j'ai avec plein de projets qui m'animent à fond.
Tu as trouvé ta voie, je crois, tu as osé. Donc le titre de ce podcast, Comment osez-vous ? Alors je vais te demander comment tu as osé, pourquoi tu as osé ? Parce que c'est quand même assez osé de se dire je vais prendre mon vélo et je vais faire le tour du monde. C'était vraiment préparé ou c'était une idée qui t'est arrivée comme ça du jour au lendemain ?
Mais je pense que j'ai osé aller affronter mes rêves. J'avais des rêves quand j'étais plus jeune, c'était de prendre le Transsibérien par exemple. Quand j'étais petit, je me rappelle, quand j'étais au collège, de voir ce train qui traversait la Russie de Moscou à Vladivostok, un train construit par les tsars russes à la fin du 19e siècle. Et je me disais que ça me fascinait de pouvoir traverser un aussi grand continent à bord d'un train. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Du rêve au guidon », c'est du rêve de prendre le Transsibérien. Et à la fin de mes études, en fait, quand j'avais 24 ans, j'avais eu un CDD, je travaillais à la Défense à Paris, je me suis dit pourquoi pas aller prendre ce train à Moscou. Et de base, je voulais partir en stop à Moscou pour aller prendre ce train. Et j'ai un grand frère qui m'a motivé à partir à vélo. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et en partant à vélo, en fait, ça a été un peu l'initiation au vélo. Ça a un peu changé ma vie. Je me suis dit, mais c'est juste génial de voyager à vélo pour rencontrer les gens. Dès que j'arrivais dans un village, bah, forcément, ça crée la curiosité. Je suis quelqu'un de curieux de base. Donc, en fait, j'ai compris que je pouvais partager avec les gens à l'aide de mon vélo. Et du coup, en fait, cette aventure-là n'était pas préparée en mode je rêvais de voyager à vélo, mais je rêvais de prendre le train. Et après, c'est des choses qui se sont enchaînées et j'ai osé partir. Et j'ai fait un choix un peu atypique, en fait, après un master, de partir dans un projet comme ça, là où mes amis prenaient des CDD, des CDI et des jobs qui payaient bien. Bah moi, je suis parti avec mon vélo et c'était un choix qui était certainement un petit peu imprévisible. Mais en fait, je me suis trouvé dans ce mode de voyage et puis j'ai commencé à m'épanouir énormément. Et là où j'avais beaucoup d'excès, c'est aussi pour ça que je pense que je suis parti. Je pense que c'était une nécessité avec du recul aujourd'hui. Je pense que c'était une nécessité de partir. J'étais parti dans un train de vie quand j'étais à Paris où en fait je travaillais, je faisais beaucoup la fête et je m'épanouissais pas, je crois. Et aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un de super épanoui par ces projets que je porte. Et du coup, j'ai mis mon excès un petit peu dans l'aventure là où je le mettais dans d'autres choses avant. J'avais écrit un article il y a pas longtemps que j'ai jamais publié, mais c'est Oser la peur, elle vous rendra meilleur. Et c'est un petit peu oser affronter des choses. Quand je suis parti avec mon vélo la veille, je me rappelle, j'avais la boule au ventre, quoi. Je me disais, mais dans quoi je me lance? Et en fait, c'est oser affronter ses peurs. Et derrière, en fait, ça nous rend meilleurs. Il se passe des choses qui sont formidables, quoi.
Oui, ta vie d'avant, c'était une vie avec certains excès qui auraient pu te nuire et nuire à d'autres aussi. Enfin, on va pas développer ce... Dans ton livre, tu l'expliques. Et toi, t'avais beaucoup d'énergie. Je pense que t'es quelqu'un qui a sans doute beaucoup, beaucoup d'énergie, qui a envie de faire plein de choses, qui est très, très actif. Et t'avais pas encore trouvé... comment l'utiliser, cette énergie, en fait?
Ouais, je pense qu'il y a une sorte d'énergie que je ne savais pas vers quoi m'orienter. Je n'avais pas mis le curseur au bon endroit, peut-être. Après, j'ai eu la chance de faire des études, de grandir dans un environnement très positif ici en Bretagne, et de faire des études et de tenter des choses dans mes études. C'est que j'ai fait des projets, j'ai fait le 4L Trophy, je suis parti en Écosse où j'avais fait un projet, une étude de marché sur le whisky.
C'était les prémices, en fait.
Ouais, c'est grave. Ouais. C'est les prémices. Et puis après, j'étais pas mal dans le monde associatif, lié à l'école, je jouais au foot. Et puis j'ai kiffé aussi ma vie étudiante, en fait. Je pense
que finalement, tu étais quand même sur cette voie-là, mais ce n'était pas encore assez.
Ouais, ouais. En fait, là, c'est grandeur nature. J'ai l'impression que dans ce voyage à vélo, je suis rentré dans mon troisième cycle de vie. Le premier, ça a été ma tendre enfance avec mes parents jusqu'à 17 ans. Après, la vie étudiante de 17 à 24 ans, c'était le deuxième cycle, la vie étudiante. Et le troisième, c'était un petit peu le grand bain de la vie, quoi. C'est le moment où on s'émancipe un peu et qu'on se lance dans ce qu'on a envie au plus profond de nous. Et j'ai eu cette chance, en fait, de partir à vélo, mais je ne l'avais pas conscientisé avant. Et en fait, en partant, je me suis créé mon propre moule. Et c'était ça qui était génial de voyager en solitaire, c'est que je faisais ce que je veux quand je voulais, avec mes propres envies, mes désirs. Et en fait, de fil en aiguille, ça a duré un peu plus de 2 ans. Et ça a un peu façonné la personne que je suis aujourd'hui, mais que je veux être au plus profond de moi. Et là, je suis dans le vrai, en fait, par cette aventure et les autres que je suis en train de mener maintenant, quoi.
D'accord, donc vraiment ce besoin aussi d'indépendance quelque part, mais de créer quelque chose de vrai, quelque chose qui t'anime, en fait. Vraiment, tu avais besoin de trouver quelque chose qui t'animait,
ouais,
énormément.
Une forme de liberté aussi, parce que j'ai eu une forme de liberté incroyable pendant ce voyage à vélo. Et puis aujourd'hui aussi, la dernière fois, je pensais à un truc qui me faisait assez rire, mais quand j'avais mon CV avant, tu vois, genre, tu marques les expériences professionnelles et après les expériences personnelles. Et avant, c'est comme ça que je construisais mon CV, ouais, pour aller chercher des stages ou des alternances. Et en fait, aujourd'hui, les expériences personnelles sont devenues ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial, en fait. C'est que en fait, ma vie personnelle, professionnelle, c'est la même,
c'est
aujourd'hui.
La même. Ouais,
en fait,
ouais,
c'est vie, passion. Et c'est pour ça que je me sens super chanceux aujourd'hui d'avoir réussi à trouver un moyen de vivre de ma passion et de ce qui m'anime au plus profond de moi. Et
oui, séparer les choses, mettre des cases, des cadres, c'est pas forcément ce qui, toi, te plaît.
Enfin, non, je me déguise pas, en fait. Après, j'ai pas d'heure de travail, ça, c'est aussi une chance, mais après, je me déguise pas en m'habillant d'une autre façon lorsque je vais faire ci ou ça, en fait. C'est juste moi dans ma vie et...
Ouais.
Et ça, c'est chouette, quoi.
Et toi, de manière constante.
Voilà.
Comme ton vrai nom.
C'est ça.
Donc, oui, alors, à vélo, alors, c'est quand même un gros effort physique, le vélo. Toi, c'était pas... Enfin, je veux dire, le vélo, il y a des gens, c'est leur passion depuis qu'ils sont petits. Toi, c'était pas forcément le cas. En fait, si je comprends bien, c'est vraiment... ton frère t'a proposé ça. Tu t'es dit, ah ouais, pourquoi pas y aller. Mais il y a des gens qui s'entraînent avant de faire un effort comme le tien.
Ouais, j'étais pas du tout cycliste avant de partir. Ouais. Je savais même pas changer un pneu. La première fois que j'ai eu une crevaison en Pologne, Je me suis retrouvé à regarder un tuto YouTube comment changer une chambre à air. J'avais jamais installé de rustine sur une chambre à air. Et j'étais pas du tout cycliste. Après, j'ai appris à faire du vélo comme tout le monde à 6-7 ans, à essayer dans le jardin chez soi. Mais pour se préparer à ce voyage, en fait, moi, je travaillais à La Défense et j'habitais à Bercy, à côté de Bercy. Et du coup, 3 mois avant de partir, j'ai acheté un vélo et je faisais l'aller-retour pour aller au travail tous les jours. Ça me faisait faire 25 km par jour. Et avec mon frère, on avait fait un Paris-Dieppe aussi, c'est 200 km à peu près pour s'entraîner. Un mois avant de partir. Là, en un week-end, mais je suis rentré le dimanche soir, j'avais mal partout. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai commencé à voyager à vélo en Europe, mais comment je vais faire? Et après, ce qui est dingue, c'est que le corps, il s'adapte, quoi. Et je trouve assez magique comment nos corps, ils réagissent à l'effort. C'est que j'en parle dans le livre à un moment de la résistance et de la résilience. Et je pense que dans ce voyage-là, j'ai fait appel à ma résilience, le fait de répéter les efforts régulièrement. Et après, notre résistance, elle grandit. Quelqu'un qui est athlétique de base, sa résistance va l'amener sur 50 km tranquille ou 100. Et puis après, il va faire appel à sa résilience pour répéter encore un peu l'effort et aller plus loin. Au début, moi, quand je faisais 15 km à vélo, peut-être que j'étais fatigué, mais ma résilience me permettait de répéter. Et au bout d'un moment, ma résistance a grandi et ma résistance me permettait d'aller sur plus de kilomètres. Mais au bout d'un moment, je pense que le corps s'adapte, quoi.
Alors, ton voyage, donc, tu as commencé aux Pays-Bas, c'est ça? Et donc, Pays-Bas, Allemagne, Pologne et Lituanie pour l'Europe. Donc, avec un regard sur l'histoire européenne aussi, tu as vraiment été à Auschwitz, par exemple. Enfin, tu as vraiment fait tout un parcours aussi historique, on va dire. Et ensuite, tu as pris le transsibérien, donc de Moscou à Vladivostok. Donc là, tu as réalisé un rêve, finalement.
Ouais, grave.
Donc c'est intéressant aussi. Alors c'est long, c'est monotone parfois, mais c'est intéressant. T'as rencontré du monde, tu l'expliques, c'est un peu les mêmes paysages, mais aussi t'es quand même dans un endroit assez entre guillemets fantastique.
Ouais, c'est vrai que moi ça me fascinait ce train là qui traverse la Russie et du coup je suis allé à Moscou. J'avais regardé un peu par les agences pour acheter le billet, mais il faut plutôt aller à la gare Yaroslav de Moscou et demander un ticket pour le Transsibérien. Et puis après, il y en a plein qui vont dans différents endroits. Et puis, c'est un train en tout qui dure 162 heures, que j'ai fait en deux fois. J'ai fait la partie de Moscou et Irkoutsk qui durait 83 heures. Et après, celle de Irkoutsk à Vladivostok de 78 heures. Et à l'intérieur du train, il y a tout qui se fige un peu. C'est que l'espace-temps, on est complètement perdu. Il y a le premier trajet, je crois que j'ai eu 5 heures de décalage horaire entre le début et la fin. Il y a les... je ne sais plus comment on appelle les oh, j'ai oublié le nom. Les dames qui s'occupent du train. Il y a un terme russe pour ça. Et du coup, ça devient un peu les mamans du train. Dans le wagon, on est 54, mais c'est des cabines ouvertes les unes aux autres. Donc, il y a tout le monde qui vit un petit peu les uns avec les autres. Tu te partages du thé, tu joues au jeu de cartes, le Durac. C'est un voyage à travers un peu le temps, les grands espaces à bord du train. Et puis, on a le temps, en fait. Et c'est là où j'ai commencé un peu à matérialiser le temps. Et ce qui est drôle, c'est ça s'est passé avant le confinement. Et après, tout le monde a été en confinement dû au Covid. Mais à ce moment-là, moi, j'ai eu le temps dans ce train. Et je lisais le livre de Sylvain Tesson, notamment, dans les forêts de Sibérie. Et il dit quelque chose que j'aime bien. Il parle de la solitude... du froid et du silence ce sont des états qui vaudront demain plus cher que l'or. Et j'aimais bien rajouter l'écoulement du temps. En fait, à ce moment-là, je commence à comprendre en fait que avoir du temps, c'est trop bien, et que de le matérialiser, c'est encore mieux. Et dans ce voyage à vélo, notamment, qui a duré pendant 2 ans, en fait, j'ai eu beaucoup de temps tout seul sur mon vélo à penser, à rêver, parfois à pleurer, à rire. Et ça a été, c'est une des grandes chances aussi dans ce voyage d'avoir passé 2 ans. Comme ça, seul sur mon vélo, mais aussi avec tout le monde, c'est que j'ai l'impression d'avoir élargi ma durée de vie. C'est que quand il se passe 7 jours où je vais dormir dans 7 endroits différents, où je rencontre plein de gens différents, quand j'y repense maintenant, j'ai l'impression qu'il s'est passé plus que 7 jours. Et c'est un petit peu la puissance du voyage et de l'aventure, quoi. C'est d'élargir l'espace-temps, quoi.
Voilà, je pense que nous, dans notre mode occidental, on court après le temps, tu l'expliques aussi. Et là, pour nous, vivre des moments, vivre des temps, faire plein de rencontres dans une journée, finalement, ça devient atypique. J'aime bien la question du temps, justement, je voulais en parler, parce que toi, dans tes journées, donc quand tu as fait ton tour du monde à vélo, tous les jours, c'était une nouvelle vie, un nouveau jour, avec des personnes différentes, des rencontres différentes, des paysages différents, donc le temps, il s'allonge, et tu as vraiment l'impression d'avoir vécu, cinq jours en un jour, par exemple.
Chaque matin, tu réécris une nouvelle histoire qui, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu sais que tu vas ramasser ta tente ou tu vas ramasser ton paquetage, mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans la journée, donc tu réécris une histoire. Et c'est drôle parce que quand je repense à des moments de mes voyages, parfois je peux dire ce que j'ai mangé à tel endroit, parce que je me rappelle, parce que je marque des images de chacun de ces endroits. Et ouais, dans l'aventure, en fait, pour revenir dans nos modes de vie sédentaires, et moi j'aime bien être sédentaire aussi, mais c'est plus monotone. Et par exemple, du lundi au vendredi, je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé, quel jour.
Ça arrive, ouais.
Alors que quand t'es en itinérance, du lundi au vendredi, tu sais que t'es passé par tel bled, bah tu sais à peu près, t'arrives à savoir.
La mémoire, elle structure plus les choses.
Ouais.
Elle rend plus les journées dans.
J'image des villes par lesquelles je suis passé, et du coup, c'est plus facile des villes avec des gens que j'ai rencontrés, avec des histoires qui me sont passées, des galères, des joies. Et émotionnellement, en fait, le voyage procure, c'est les montagnes russes, quoi. Tu passes de la joie extrême à la déconvenue, parce que tu te retrouves dans une galère, une averse au mauvais moment, il fait froid, t'as une flemme.
Ouais. Alors ça, il y a des gens qui n'aimeraient pas, je pense.
C'est un mode de vie assez rustique. En fait, je pense qu'il faut accepter la rusticité. Moi, en fait, ça me dérange. Enfin, je peux dormir n'importe où. À partir du moment où, par exemple, le parquet ici, si on m'avait proposé ça à des moments, j'aurais trop kiffé.
Mais de passer de la joie, puis après d'être déçu une heure après.
Je trouve ça trop cool.
Toi, t'aimes bien.
De vivre les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Moi, j'ai envie que ma vie, ça soit ça, en fait. Si je peux être haut tout le temps, c'est mieux. Mais parfois, la galère, de se mettre dans des situations de galère, ça permet d'être content pour un truc tout petit, quoi. Et un jour, je partage une vidéo sur Instagram où il y a un mec au Mexique qui me donne des citrons. Et quand je partage la vidéo, je me rappelle mon père qui m'envoie un message. Mais t'es content là parce qu'on te donne des citrons? Et je fais, mais ouais, parce que hier en fait, j'étais à un endroit dans une ville où on m'avait désinfecté, on m'avait fait faire le tour de moi-même à me désinfecter parce que c'était Covid.
Oui.
Et après, on m'avait convoyé avec des voitures de policiers en dehors de la ville. Et
oui,
là,
ça c'était. C'est... Voilà. Tu notes les rares moments où ça s'est moyennement bien passé. Et oui, ça je me souviens. Parce qu'en fait, globalement. Tu narres plutôt les bons moments.
Ouais.
Et il y a quelques moments comme ça où il y a un gros point d'interrogation dans notre tête quand on lit aussi, on dit qu'est-ce qui se passe là
C'est un moment assez angoissant. Ouais. Et c'est pour ça que le lendemain, quand il y a ce monsieur que j'ai rencontré dans un champ de citronniers qui m'a donné des citrons, c'était un moment fabuleux. Alors que si j'avais reçu des citrons dans la rue là aujourd'hui, les citrons, j'aurais dit merci, mais ça n'aurait pas été. Mais derrière ce citron, à ce moment-là, il y avait une valeur folle que l'être humain est bon et que là, il avait été cool avec moi.
Ça fait suite à une peur, quoi.
Ouais, grave. Ouais. Et après, je narre surtout des bons moments parce que c'est plus facile pour moi. Je préfère voir le positif dans les choses que le négatif. Et j'ai lu une phrase il y a pas longtemps du photographe Vincent Munier, et qui dit j'ai choisi de célébrer la beauté plutôt que de creuser le désespoir. Et dans mes réalisations, que ce soit ce livre ou ce film, je préfère montrer la beauté de l'humanité, la beauté du monde, plutôt que, si j'avais une vision négative, j'aurais trouvé du négatif. Mais c'est ce qui m'intéresse, en fait.
Mais bon, c'est pas plus mal, parce que dans le sens où je pense à ça en ce moment là, parce qu'on voit tellement d'images et de propos négatifs actuellement qu'on a aussi besoin d'avoir du positif, sinon ça serait plus possible. Donc, et alors moi je me posais la question parce que du coup ça t'a procuré une forme de mémoire là, le temps que tu vivais. Mais est-ce que tu as noté, est-ce que tous les soirs tu notais dans un carnet quand même en prévision d'un possible livre
J'ai commencé à rêver du livre à partir du Costa Rica, rêver à entreprendre cette idée d'écrire un livre. Mais avant ça, j'avais envie de documenter mon voyage. J'ai commencé à créer mon site internet quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Mais avant, j'ai commencé à partager sur Instagram. Et c'est là où les réseaux sociaux, parfois, on en parle avec beaucoup de négatifs. Mais Instagram, pour moi, ça a été un journal de bord.
Ah ouais, mais c'est génial pour ça.
Et qui est vachement bien structuré.
Ouais.
Et en fait, quand on regarde mes publications, j'en publiais une tous les 4-5 jours, qui était assez descriptive de ce que je faisais. Et du coup, moi, ça m'a permis, quand j'ai écrit mon livre, ben, en fait, je me suis replongé dans toutes ces publications Instagram. Et après, j'avais des notes sur mon téléphone où c'était un petit peu mes notes philosophiques que j'appelais notion de base. Où je sais pas, quand je pensais à un truc pendant 3-4 heures sur le vélo, ben, j'écrivais sur mon téléphone.
Ah, c'est sur ton téléphone que tu écrivais. T'avais pas forcément un carnet.
Non, j'avais deux carnets.
Ah oui.
Mais en fait, j'ai eu deux carnets, mais au bout d'un moment, ça prenait de la place, c'est du poids. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire dans les carnets et j'ai écrit dans mon téléphone.
D'accord.
Mais j'avais quand même, j'ai eu deux carnets remplis avec lesquels je me suis un peu resservi aussi pour écrire à la fin.
Et puis tes stories et tes posts. Parce que les stories, c'est pas mal ça pour nous. Moi, je suis des gens qui voyagent et les stories, je trouve ça vraiment, c'est pas mal quand on peut en faire parce que nous, on vous suit un peu en direct en fait. C'est sympa.
J'ai pas une grosse communauté, mais ça a quand même généré notamment dans mon entourage, des gens qui m'ont suivi. Et je sais que les gens ont été accrochés un petit peu à mes stories et je prenais aussi un plaisir. Et j'étais seul, mais en même temps, le fait de partager à des moments, soit je partageais le matin, soit le soir, ça dépend. J'essayais de tout partager en même temps. Pour me réserver un moment, en fait, dans la journée, pendant 30 minutes, bah, j'ai partagé les stories, j'ai raconté l'histoire qui s'est passée la veille, par exemple. L'aventure est belle, mais quand elle est partagée, elle est d'autant plus belle. Et j'aime bien partager et d'avoir des retours, de faire voyager mes grands-mères. Enfin, c'est génial, quoi.
Ouais, parce que tes grands-parents t'ont beaucoup suivi, ce que tu nous expliques. Ouais.
Et elles connaissent limite mieux mon voyage que moi, parfois. Elles me rappellent des moments que parfois j'ai ôté de mon esprit. Elles me disent « Ah, mais oui, quand t'étais là-bas et tout. » Et je suis « Ah, purée, c'est génial que tu te rappelles de ça, quoi. »
Bah oui, les grands-parents, notre mémoire aussi, finalement.
C'est ça.
On en a parlé de la question du temps. Puis c'est une question, lorsque j'ai préparé ce podcast, que mon entourage se posait, c'est mais quand on vit avec son vélo, en fait, on a toute sa vie sur son vélo, mais c'est quoi toute sa vie? C'est peu de choses. Alors, c'est quoi sur ton vélo au quotidien? Une gourde
Il y a les affaires. Souvent, dans mes sacoches, c'est organisé. J'avais deux sacoches à l'avant, deux sacoches à l'arrière. Après, en fait, ma cargaison a évolué au fil du temps. Entre le début et la fin, à un moment où j'ai rajouté une caisse en bois parce que je voulais potentiellement adopter un chien, chose que je n'ai jamais fait et parce que c'est pas venu à moi finalement. Et j'avais fait les démarches au Guatemala pour adopter un chien, j'en parle même pas dans le livre de ça.
Non, pas du tout.
Ouais, mais la dernière fois, je me suis rappelé de ça et j'ai retrouvé dans mon WhatsApp, j'avais rencontré une association qui récupérait les chiens et j'étais à deux doigts d'adopter un chien et en final, je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai quand même créé
les. Mais pourquoi adopter un chien pour être seul sur la route?
J'ai vu plein de chiens errants au Mexique. Ah. Et j'aime les chiens. Et j'étais sensible à ça. En fait, souvent, j'ai acheté des sacs de croquettes, par exemple, et je distribuais dans la rue pour les chiens errants. Et je me suis dit, bon, allez, je vais me créer une caisse. Et si jamais il y a un petit chien qui peut passer dans la caisse, bah, je l'adopterai. Et je continuerai ma vie avec lui, quoi. Et puis, ça aurait été un projet. Pour plusieurs années, jusqu'à temps que le chien aurait été avec moi. Et au final, je ne l'ai jamais fait. c'est des choses, j'avais préparé ça, mais je ne l'ai pas fait. Et comme plein de choses dont je prépare et qu'au final, qu'il ne se passe pas. Par exemple, après la Nouvelle-Zélande, je voulais aller au Vietnam. Mais avec le Covid, bah, ça a changé les plans de mon voyage. Donc, je me suis adapté. Et au final, je pense que la vie en général, on s'adapte à ce qui se passe, quoi.
Alors, donc... T'avais la boîte là pour ton chien et mais sinon
la cargaison du coup il y avait les vêtements après sur le vélo c'est un peu la petite maison la sacoche avant gauche je pense que j'avais tout mon matériel mécanique j'avais ma petite salle de bain pour question hygiène derrière mes fringues j'avais aussi le bivouac quoi la tente le sac de couchage le plus important je pense c'est le sac de couchage j'ai fait l'erreur une fois en Sibérie d'avoir un mauvais sac de couchage, confort 10 degrés, alors qu'il faisait moins 15, moins 20 degrés, et j'en ai perdu deux ongles d'orteil. Et là, je me suis dit, plus jamais j'ai un sac de couchage pourri quand je vais dans le froid. Et après, on apprend de ses erreurs. Et à ce moment-là, j'ai été très, très innocent, très idiot. J'avais beaucoup de confiance en moi pour aller faire cette randonnée dans la vallée de la Tunka.
Voilà, c'est ça, oui. On va en reparler tout à l'heure. Alors, parce qu'on n'a pas précisé, toi, tu souhaitais faire du bivouac, en fait, dormir à l'extérieur. Et puis souvent, tu avais des applications spéciales, on t'accueillait, tu allais dormir chez l'habitant.
Ouais, après, je souhaitais, en fait, j'organisais pas mes bivouacs, mais du coup, je voulais être autonome. Et si possible, dormir chez les gens. Ouais. Après, les applications, je les ai surtout utilisées au début.
Au début, c'est ça. Tu utilises des applications au début.
Et après,
on peut donner les noms de ces
applications. Il y a Warm Shower. Du coup, ça, c'est un site, une plateforme de partage entre les cyclo-voyageurs et des gens qui accueillent les cyclo-voyageurs. Après, une plus générale, c'est couchsurfing. Ouais.
Mais et après... puis après, tu as décidé, tu ouais. t'es dit non, c'est trop préparé, ça me met trop de pression.
Oui,
il faut que je fasse tant de kilomètres par jour absolument pour être poli et être à l'heure chez les gens qui m'accueillent. Alors après, tu t'es dit non, je vais gérer tout seul au dernier moment.
Ouais,
soit je fais du bivouac, ou soit je frappe aux portes et on m'accueille. C'est ça. Hein.
C'est ça. Au début, ouais. en fait, je pensais que prévoir, anticiper, ça allait me rassurer dans mon voyage. Et du coup, j'avais prévu, notamment en Pologne, où à un moment donné, je prévois 5 warm showers de suite. Mais au bout des 5 warm showers, en fait, au bout de 5 jours, je suis lessivé parce qu'en fait, j'ai fait trop de kilomètres. Je me suis donné trop d'obligations dans mon voyage. Ouais. Alors que, et à ce moment-là, je capte que en fait, ce voyage-là, c'est du laisser aller. Il faut se laisser porter par le voyage et ce qui va se passer et par l'incertitude. Et je trouve que la magie elle, réside un peu dans l'incertitude du voyage. Voilà, tu pédales 30 km, tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien. Voilà, tu passes la journée avec et peut-être que tu vas dormir chez la personne. Et du coup, faut se laisser la possibilité de s'octroyer ces moments. Et du coup, j'ai arrêté de trop préparer. Après, j'ai utilisé cette application, notamment au Warm Shower, quand j'arrivais dans les grandes villes. Par exemple, à Cancun, je savais que j'allais y arriver. Donc, si je pouvais rencontrer quelqu'un de la communauté des cyclo-voyageurs. Et c'est une communauté en fait, qui est super bienveillante et qui comprend rapidement ce dont tu as besoin. En fait, quand tu voyages à vélo sur le long cours, directement, tu arrives chez un Warm Shower, il va souvent t'offrir une machine à laver, des choses qui paraissent un petit peu simples, mais quand tu peux pas laver tes fringues souvent, en fait, si tu arrives chez quelqu'un, bam, on te propose une machine à laver, là, tu es trop content. Là, tu te remets à jour un petit peu sur tes affaires. Et du coup, c'est un petit peu des moments stratégiques où tu fais appel à cette application et puis à cette communauté, quoi.
Ouais, j'ai rencontré plein de monde. Donc, en fait, au Mexique aussi, en Amérique centrale, tu vas dormir plutôt chez les pompiers, près des mairies ou alors chez la police aussi.
Ouais,
moi, en fait,
pas en garde à vue.
Ouais.
Mais en fait, ma stratégie, quand j'arrivais dans un village, et je place vraiment l'humain au cœur de tout. Donc, quand je pouvais, je me rapprochais de l'être humain. Mais en fait, je me rapprochais des maisons. Après, quand j'ai dormi dans le désert ou dans la montagne, quand j'étais tout seul, et je mettais ma tente. Mais sinon, quand je me ramenais dans les villages, j'allais un petit peu au cœur du village et je regardais un petit peu les bâtiments institutionnels. Donc, ça pouvait être la mairie, l'église, le commissariat, les pompiers. Et je me rapprochais d'eux et je leur demandais en fait où est-ce que je peux me mettre pour la nuit, je voyage de là à là-bas, où est-ce que vous m'autorisez de passer la nuit? Et en fait, en demandant cette question qui est simple, les gens m'aidaient en fait. Parfois on me disait tu peux te mettre là, parfois on me disait tu peux pas aller toquer là-bas, ou parfois en fait il se passait toujours quelque chose. Et en fait, c'est un petit peu le jeu de l'intégration quoi, de quelqu'un qui voyage. Tu arrives dans un endroit où t'es pas chez toi et en fait tu vas demander la permission. Et le fait de se mettre un petit peu en position d'infériorité et de montrer que j'arrive chez vous, où est-ce que vous me donnez l'autorisation de dormir, je pense que les gens ils le recevaient très bien cette façon de faire. Et du coup, les gens m'aidaient. Et du coup, c'est un petit peu ce que je faisais tous les jours. Avant la tombée de la nuit, c'était une de mes règles de chercher un endroit où dormir. Bon, parfois, les règles, on les oublie, puis on ne le fait pas, et puis on arrive en pleine nuit quelque part. Et là, ça devient galère, quoi. Et ça, j'évitais.
Ouais, c'est une bonne idée, enfin une bonne astuce, on va dire, de fonctionner comme ça. Donc après donc le Transsibérien et la Russie, tu as passé un an en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est à cause de la pandémie que tu es resté aussi en Nouvelle-Zélande pas mal de temps. Tu as fait des jobs, donc tu t'es vraiment intégré. Donc plusieurs jobs, cuisinier, t'as vendu des glaces aussi, je crois.
Ouais. Mais en fait, quand je suis arrivé à Vladivostok en Russie, j'allais pour la Nouvelle-Zélande. Donc il y avait que 2 mois de voyage et je suis pas parti avec énormément d'argent. Donc quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande à Auckland, je me suis dit et j'avais en tête de continuer à voyager à vélo, mais il fallait que je me rachète un vélo parce que le premier je l'avais vendu à Vilnius en Lituanie.
Ah ouais.
Donc j'avais pris le Transsibérien sans le vélo. Et quand j'arrive à Auckland, je me dis il faut que je trouve un taf. En tant que Français, j'ai la chance de pouvoir avoir le PVT, le visa vacances-travail. Et du coup, je me mets à travailler à Auckland. Au début, je suis balayeur dans les parkings. Et l'idée, c'était aussi de parfaire mon anglais. Et en tant que balayeur, je ne parlais pas très bien anglais. Et du coup, je me dis, il faut que je trouve un autre taf. Et là, je trouve... En fait, c'est assez drôle, mais c'est les choses de la vie. Parfois, en 2016, j'ai été prof dans une association au Vietnam, à Hanoï, et il y avait une Vietnamienne qui s'appelait Emma, qui travaillait aussi dans l'association. Et quand j'arrive en Nouvelle-Zélande, Emma, elle travaille à Auckland dans un hôtel, Et en fait, je la recontacte. Je savais qu'elle était à Auckland par Facebook. Et du coup, eux, ils cherchent un serveur. Et en fait, dans l'hôtel, et du coup, je trouve mon travail de serveur grâce à Emma que j'avais rencontrée au Vietnam.
Puis ce qui est fou, c'est que le monde est petit, c'est le cas de le dire, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ça j'ai noté, parce que j'ai trouvé ça marrant, tu as rencontré, alors tu cherchais une colocation, et puis tu as recroisé une personne qui était au collège avec toi, qui travaillait dans l'immobilier.
En fait, on échangeait ensemble par mail. En fait, c'était une agence qui s'occupait beaucoup des gens francophones, et du coup je cherchais un logement, donc dans le même moment que je travaillais pour cet hôtel comme serveur. Et en fait je parle avec une personne qui me cherche un logement, et au bout d'un moment en fait elle signait Nolwenn Dudouet, cette personne là et elle me dit mais je crois qu'on se connaît. Et en voyant son nom je fais mais non, c'est pas possible, on était au collège ensemble.
Ça faisait 10 ans que tu l'avais pas vu, ouais, et plus. Tu te dis il faut que je fasse des kilomètres pour revoir quelqu'un qui était au collège avec moi 10 ans après.
Ouais, c'était improbable. Ouais, il y a des choses comme ça qui se passent.
Il y a des choses comme ça, c'est rigolo. Sur ton site, parce que tu as un site qui s'appelle En route avec Etalep, alors Etalep c'est ton nom à l'envers, Pelate, donc puisque tu t'appelles Constant Pelate, et sur ton site on voit toutes les photos de tes rencontres et de ce que tu appelles tes anges gardiens, donc Gabriel et Tobias, j'en cite, hein, ouais, Kipras, Lituane, Kipras, Valentina, Amaranta, Dura et Couille.
Ah, voilà. Oui. Ça, c'était des hippies avec qui, c'était pendant la pandémie en Nouvelle-Zélande. Dura et Couille, c'était assez drôle, ils vivaient dans une forêt, dans un mode de vie très rustique. En fait, chacun avait une caravane, moi j'en avais une, Couille en avait une, et Jura aussi. Et en fait, pour la petite histoire, ils ont choisi des noms un petit peu spirituels, et ce gars, en fait, c'était un Allemand, et qui me disait s'appelait Couille, et je n'ai jamais dit ce que ça voulait dire, mais ça me faisait très rire. Et en fait, j'ai vécu avec eux pendant une quinzaine de jours, dans un mode de vie très simple. Et après, ouais, ça a été une succession de plein d'expériences, voilà, la Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a la pandémie, en fait, qui est arrivée, c'est que j'ai travaillé pendant 3 mois et demi, après j'ai voyager à vélo, donc c'était mon plan de traverser toute la Nouvelle-Zélande à vélo. La pandémie qui arrive, donc là je suis en confinement. Après je me remets à retravailler, où là parce qu'en fait la pandémie m'a coûté de l'argent. Le fait de devoir dormir tous les soirs une auberge de jeunesse, ça a un petit peu liquidé mon compte en banque. Donc après j'ai retravaillé comme docker pour décharger le poisson dans les ports. Et après je suis reparti en fait à vélo. Et en même temps, en fait, c'est à ce moment-là que je commence à créer ce projet cycloéducatif, où avec Elodie, en fait, ce qui se passe, c'est que je vois un appel à projet sur Instagram d'un fonds de dotation. Et moi, en fait, j'avais lu le livre de Ludovic Hubler, Le Monde en Stop. Et je trouvais génial ce qu'il avait fait, ce gars-là, de partager son voyage avec des enfants du service de pédiatrie de Strasbourg. Et je me dis, mais purée, mais cette aventure à vélo, moi, quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être journaliste, d'être reporter, mais je pourrais être le reporter de quelques enfants quelque part dans le monde. Et du coup, je me dis, et je pitch pour le projet, l'appel à projet que je vois sur Instagram, je ne gagne pas, mais ça me met en mode projet. Et en fait, à partir du moment où j'ai intégré le fait de vouloir faire un projet de ce voyage à vélo, et ben en fait, je crée une vidéo qui est partagée un petit peu dans mon entourage, qui revient dans les oreilles de Elodie, qui était directrice du périscolaire de l'école Volga à Rennes. On commence à imaginer un projet ensemble où moi, j'ai partagé mon voyage avec ses enfants. Et en fait, c'est quelque chose qui va m'animer à fond. Et du coup, je me lance à fond dans ce projet. On est coupé un petit peu par la pandémie, mais en fait, on va reprendre le projet après derrière au Mexique. Et ça va être un peu le fil conducteur de ce voyage pendant les 2 ans, quoi. Le début, c'était un projet de partage avec les enfants de l'école Volga, qui s'est un petit peu démultiplié avec le centre social Savio, le centre aéré Savio, et après avec d'autres écoles, notamment le collège Saint-Joseph de la Guerche. Et après, en route, quand j'étais au Mexique, je me suis dit, mais ça pourrait être chouette d'aller plus loin dans ce projet de partage avec les enfants et de faire quelque chose pour les enfants des pays que je traverse. Et du coup, je me dis, mais ça pourrait être chouette d'organiser une journée basée sur le monde du vélo, d'organiser une journée de la bicyclette dans un orphelinat ou dans une école. Donc je commence à avoir cette idée-là et je me dis, mais comment je peux financer ça ? Donc pour financer ça, je pense d'abord à financer ça. Et je me dis, je vais créer des t-shirts, des sweats, des casquettes, des bobs par rapport à ce projet. Donc je crée des sweats, etc., que je vends via mon Instagram, via mon site. Avec l'argent que je collecte, du coup j'ai de l'argent pour pouvoir organiser ces journées. Et en fait, j'appelle différents orphelinats, d'abord à Tijuana, pour leur expliquer le concept de la journée de la bicyclette. Et en fait, je suis reçu dans un orphelinat à Tijuana, et du coup, ça devient un objectif, quoi. Et sur la route, en fait, ça me fait aussi un projet à quoi penser, bah, comment je pourrais faire, comment je pourrais organiser cette journée. Et puis au final, j'en ai fait 7 journées comme ça, bah, du Mexique au Panama.
Vraiment une belle idée où tu vas voir donc des classes ou alors tu rencontres des orphelinats et où tu présentes ton projet, ton voyage et soit tu arrives avec des vélos
Ouais.
ou d'autres cadeaux.
Ouais, mais en fait, et ce qui était magnifique, c'est que par exemple, quand j'arrive à Tijuana ou à Guatemala City, c'est que j'arrive avec une idée, je rencontre la communauté des cyclo-voyageurs sur place, j'arrive avec l'idée, on fédère ensemble, bah, je fédère un petit peu une équipe. Par exemple, quand j'arrive à Tijuana, je rencontre Edgar et Aaron, deux gars exceptionnels. Il y en a un qui m'héberge, l'autre qui m'amène un petit peu partout pour trouver des vélos. On achète des vélos qu'on répare. Edgar me trouve quelqu'un pour floquer des t-shirts. On fait floquer des t-shirts pour les petits. Après, j'avais pris la liste de tous les enfants, donc toutes les petites filles, tous les petits garçons. Et selon leur âge, on essayait de faire des cadeaux adaptés à chaque enfant, de leur faire un sac personnalisé aussi. Ce qu'on se disait que, enfin, c'est ce que je me disais, qu'un enfant orphelin, malheureusement, il n'a pas forcément une attention personnalisée dans bah, l'orphelinat dans lequel il est. Du coup, l'idée, c'était de faire vraiment un cadeau personnalisé à chaque enfant, selon son âge, selon ce qu'il pourrait aimer. Et en fait, quand j'arrive à Tijuana, j'ai une semaine pour organiser tout ça. Et avec Aaron et Edgar, bah, je lui ai été aidé à fond. Et pareil, quand j'arrive à Guatemala City, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Sergio et qui m'a aidé à fond. Et à chaque fois, en fait, quand je suis arrivé avec cette idée dans une ville où j'anticipais un peu un mois à l'avance le fait de faire cette journée dans cette ville, donc pour rappeler les écoles ou les orphelinats. Et après, quand j'arrivais, j'étais en mode à courir dans tous les sens pour organiser cette journée. Et puis, il y avait des gens qui m'ont aidé à les mettre en place, quoi.
Oui, puisque j'ai trouvé du bien aussi, c'est tes idées pour financer tout ça. Donc, tu as organisé un loto sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tu as fait aussi avec des amis à toi? Vous avez créé des t-shirts, vous les avez mis en vente. C'est ces idées-là, en fait, qui sont intéressantes. Est-ce que toi, tu as la logique maintenant d'être entrepreneur social? Donc tu vas nous donner une définition. Donc tu l'as toujours aujourd'hui, c'est ce que tu effectues encore. Et ça a commencé par ça, par ces idées-là, par comment trouver un financement extérieur aussi.
Ouais, les lotos, c'était génial à faire. Et les lotos, c'est parti d'une idée très simple, c'est que j'avais des pulls en plus. Et je me suis dit, mais purée, les pulls que j'ai en plus, je vais les faire gagner. Et après, il y a mon frère qui fabrique du thé. Et je lui ai dit, mais tu veux pas faire gagner du thé? Et ma petite sœur, elle fabriquait des t-shirts. Et du coup, après, je me suis dit, mais j'ai demandé à mon ancien club de foot. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai demandé à plein d'entreprises, à plein de gens qui pouvaient offrir des lots. Et ça m'a permis de collecter, je sais plus, 80 lots pour le premier cyclo loto. Et après, je faisais participer les gens sous forme de tickets. Donc, dès que tu t'achetais un ticket, bah, ça te donnait une chance de gagner l'un des 80 lots. Et puis, ça a fonctionné. Ça m'a permis de récolter des fonds et pour organiser mes journées. Et puis après, ouais, cette logique d'entrepreneuriat social, j'ai toujours été dans une logique d'entreprendre, de créer des projets. C'est quelque chose qui me passionne. C'est un petit peu de créer des choses, de partir d'une idée qui se transforme en rêve. Et pour réaliser ce rêve, bah, créer un projet. Et ça m'anime à fond. Et après, le social, c'est mettre l'humain au cœur de tout, parce que c'est l'humain qui donne la force. Et puis, en fait, on est tellement beaux tous ensemble. Ça fait un peu bisounours de dire ça, mais j'aime bien l'humain, quoi. J'aime bien rencontrer tous ces gens un peu partout et puis pouvoir essayer d'améliorer un chouïa de l'humanité, après à mon humble échelle, mais essayer de faire quelque chose dans ce monde, quoi. Essayer de donner du sens aussi à tous ces projets. Et c'est un petit peu ma définition de l'entrepreneuriat social, c'est de un projet de passion et placer l'humain au cœur de tout ça, quoi.
Parce que tu aimes bien entrepreneuriat social, c'est sans doute un terme qui doit exister
Ouais,
déjà,
bah
je
Ludovic
pense.
Hubler, il en parle à un moment
Ouais.
donné, je sais plus si c'est dans un de ses livres, et une fois que j'avais vu ça, je me dis, ah, c'est une appellation qui est sympathique. Après, même dans l'entrepreneuriat en général, là en ce moment, je suis en train d'essayer de créer des t-shirts, de créer des bières, de créer du jus de pomme. J'essaye de faire des trucs, après j'échoue plein de trucs, mais ça m'anime en fait d'avoir une idée et me dire, ah ouais, purée, ça pourrait être délire de faire ça. Et puis, et de dire, ah ouais, tiens, j'ai essayé de faire ça avec telle personne. Et puis après, d'essayer de construire des choses, en fait. Je pense que j'ai un peu hérité ça aussi de mon environnement familial, où c'est des gens qui ont osé faire des choses hein, qui paraissent impossibles. Et ils m'ont donné, notamment mes parents, le droit de rêver. Mes parents, ils ont, enfin, quand j'étais petit, on habitait dans un bar, un restaurant. Et après, ils ont lancé une entreprise dans le papier. Et voilà, ils y sont allés. J'ai mon frère qui a créé quelque chose dans le thé, alors qu'on n'était pas des buveurs de thé. Et il a créé, il a osé. Et avant ça, il a essayé plein de choses. Ma soeur, elle avait créé des t-shirts. Et je pense, ouais, ils ont... Tout le monde ose faire des choses. Et c'est important, je trouve.
Et toi, tu crées des concepts, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu as créé... Alors, moi, j'ai tapé sur Internet pour voir si c'était toi qui l'avais créé en premier et tout. Donc, sédentinérance, c'est toi. Ça vient de toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme?
Sédentinérance, c'est un petit peu la vie dont je rêve, quoi. C'est une jonction un peu du mot sédentaire et itinérant. Et moi, je m'épanouis aussi dans ma vie sédentaire, mais je veux continuer de m'octroyer des périodes d'itinérance dans ma vie. Et du coup, le mot sédentinérance, c'est un petit peu comme ça que je rêve ma vie. C'est de continuer à avoir une vie sédentaire et une vie itinérante en parallèle, en fait. Et je me dis, je sais pas, dans ma vie, et si je peux m'octroyer par an, par exemple, 9 mois de sédentarité et 3 mois d'itinérance, bah, ça serait trop chouette. Et puis parfois, le ratio, il peut être différent. Ça peut être 3 mois de sédentarité et 9 mois d'itinérance. Et continuer, en fait, à bénéficier un petit peu des apports de chacune de ces vies. La vie sédentaire, c'est trop bien d'avoir une cuisine, de pouvoir se faire à manger chez soi, de vivre dans une maison. C'est quand même un luxe qui n'a pas de prix. Mais après, de retrouver la vie itinérante, c'est retrouver la simplicité de la vie. En fait, quand on voyage en itinérance, c'est se bouger, c'est trouver à manger, à boire et partager avec les gens. Et une fois qu'on redevient dans sa vie sédentaire, eh ben on reprofite de ces choses un petit peu futiles, mais la douche, d'avoir de l'eau potable au bout du robinet. Et en fait, à chaque fois, c'est réapprécier les conforts de chacune de ces vies. Et du coup, si je peux vivre comme un sédentinérant, bah à chaque fois, je revois les avantages dans la vie sédentaire ou itinérante, quoi. Donc,
Et en ce moment, tu vis comme ça?
Non, en ce moment-là, je suis sédentaire. Après, là, je repars en mai pour un nouveau projet d'itinérance pendant 3-4 mois. Donc, je vais rebasculer de l'autre côté. Mais du coup, ouais, depuis 4-5 ans, je vis de manière sédentinérante où je m'octroie des périodes sédentaires et d'autres périodes d'itinérance. Après, dans ce voyage à vélo, j'ai été pas mal itinérant, bien que je me sois arrêté de temps en temps. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, oui. Il y a des moments...
Voilà, tu as été obligé à cause de la pandémie. Ouais. Mais il y a des moments où tu as envie d'aller dans une semaine en auberge de jeunesse pour pouvoir travailler ton site internet et tes projets. Voilà.
Ouais, bah, quand j'arrive à Dunedin, à la fin de ma traversée de la Nouvelle-Zélande, là, je me dis, OK, le monde était un petit peu à l'arrêt. De base, je voulais aller au Vietnam et je me dis, mais il va falloir que je revoie un peu mes plans. Et du coup, je m'arrête à Dunedin, je retrouve un travail et là, je me mets à... Bah, je vis dans une auberge de jeunesse et je vais à la librairie tous les jours parce que je n'avais pas mon ordinateur à ce moment-là. Et du coup, je vais dans une librairie, une médiathèque, quoi. Et c'est là-bas que je crée mon site internet. Et du coup, je taffe, en fait. Tous les jours, je vais à mon travail. Après, je vais à la librairie, je crée mes articles, je crée mon site internet. Ça, je sais pas, j'ai passé combien d'heures à créer mon site internet, mais j'ai passé du temps. Et au final, en fait, pendant tout ce voyage, j'ai travaillé en parallèle à la construction d'un projet. Mais je ne savais pas trop ce que ça allait être, en fait. C'était un peu un projet passion, quoi. Et je travaillais à l'élaboration de ce projet et qui a continué jusqu'à maintenant, quoi.
Oui, parce qu'après, tu as fait le tour de France à pied.
J'ai fait
une partie.
Ouais, en fait, quand je suis rentré de ce voyage, à vélo, je suis rentré en décembre 2021. Et quand je suis rentré, il y a l'euphorie du retour. Mais ça, c'était génial de revoir tout le monde. Mais rapidement, en fait, tu te retrouves dans la vie dans laquelle tu as grandi. Et là, tu te dis, mais je fais quoi maintenant? Donc, j'étais en mode, OK, pour continuer cette histoire, il faut que j'écrive un livre. Et c'est ça qui m'animait. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce livre. Et après, j'étais un peu bloqué. Financièrement, j'ai repris un job comme charpentier chez Pipard, une petite entreprise à Adrouge. Et du coup, je me suis dit, il faut que je recrée un projet d'aventure. Parce que dans cette optique de vivre de sédentinérance, il fallait que je reparte parce que ça me fait du bien aussi de voyager. Et du coup, je décide de traverser la France à pied. Donc, je pars en stop jusqu'à Bagnols-sur-Mer. Et je traverse la France pendant 3 mois à pied pour revenir jusqu'à chez nous, en passant par le Mont-Saint-Michel notamment. Et puis, pendant cette marche, en fait, je nourris un peu ma réflexion sur ce que j'ai envie que ce soit mon livre. Donc, en fait, j'écris pas, je ne vais pas dans le dur de l'écriture, mais j'écris plein de choses sur mon téléphone, etc. Et quand je rentre de cette marche, je me mets à écrire le livre à fond, quoi. Et il y a un an et demi après être rentré, du coup, j'ai réussi à le publier. Et entre-temps, en fait, en parallèle, j'ai commencé à animer des conférences dans des écoles. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas en maison de retraite? Pourquoi pas pour des médiathèques, pour des cinémas, pour des entreprises? Et du coup, en fait, de fil en aiguille, ma conférence s'est construite. Et puis aujourd'hui, j'interviens un petit peu dans plein d'établissements différents. Et c'est devenu mon activité. Et ça, on m'avait dit ça il y a 5 ans. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai sorti une phrase sur mon Instagram et que j'aime bien de François-Xavier de Maison, où il parle de sa vie de trader à sa vie de comédien. Et en fait, souvent, on lui dit bah, du jour au lendemain, tu es devenu comédien. Et lui, il dit non, du jour au lendemain, ça m'a pris 5 ans. Et en fait, dans ma vie aujourd'hui, je vis de l'aventure. Je suis aventurier en quelque sorte. Et bah, ça m'a pris 5 ans, quoi, en fait, entre le moment où je suis parti et le moment où j'en vis maintenant.
D'accord.
Bah, ça m'a pris 5 ans, quoi.
Ouais. Et en fait, tu vis principalement de tes conférences, c'est ça? Ouais.
Ouais, des conférences et puis de la vente de mon livre, en fait.
D'accord.
En fait, je me suis auto-édité d'un point de vue financier. En fait, c'est tellement plus intéressant que de se faire éditer par un éditeur. Après, pourquoi pas me faire rééditer en livre de poche, par exemple, par un éditeur. Mais dans un premier temps, en fait, dans mon modèle, vu que j'interviens en conférence un peu à droite à gauche, là, j'ai la liberté de vendre mon livre où je veux, quand je veux. Enfin, j'ai construit ce livre de A à Z et aussi la partie édition, en fait, qui est toute la mise en page. Ce que j'avais envie que ce soit ce livre. En fait, ce livre, c'est j'ai construit tout seul. Avec, y a des gens qui m'ont relu et un grand merci à ces 6 personnes qui m'ont relu. Mais j'avais vraiment envie de pondre ce livre comme je l'imaginais dans ma tête et ce que j'avais envie de transmettre et d'aller au bout, quoi. Et je suis content d'être allé au bout de ce livre et de le distribuer maintenant. Et après, ouais, aujourd'hui, je vis aussi grâce aux conférences. Et
D'accord.
surtout grâce aux conférences.
Oh, grâce aux conférences et à ton livre, et puis pour tes projets, parce que justement, les derniers projets comme Marcher à travers la France, il y a une association, Make a Wish, tu as reversé un don à cette association?
Ouais, bah, toujours dans cette idée de donner du sens aussi à mes projets. Quand je suis parti traverser la France, je me suis dit, mais ce serait chouette de faire quelque chose pour une asso. Et j'avais rencontré l'association Make a Wish France par pur hasard. En fait, j'avais rencontré une personne de cette asso-là. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un projet pour vous? Et du coup, j'ai essayé de collecter de l'argent. Et donc, j'ai collecté quasiment 3 000 euros pour cette asso-là pour réaliser le rêve d'un enfant malade qui s'appelle Nathael. Et ça lui a permis de partir à Berlin avec sa famille. Et puis moi, ça, en fait, pendant l'aventure, pendant cette traversée de la France, je mettais des défis en place. Par exemple, si jamais la cagnotte atteignait un certain seuil, eh ben, je ramassais tous les déchets dans la rue. Si la cagnotte
D'accord.
atteignait un autre seuil, je marchais avec un pneu toute la journée. Enfin, des choses, parfois c'était loufoque, parfois ça avait du sens, les défis que je faisais, mais c'était histoire de dynamiser un petit peu le projet. Et là, dernièrement, j'ai fait un autre projet, parce que la marche était en 2022. Et en 2023, je me suis dit, mais j'avais envie de faire un autre projet d'aventure. Et après le monde à vélo, la France à pied, je me suis dit, mais ça pourrait être chouette de partir de chez moi, de mon département d'Ille-et-Vilaine, et de partir à pied, à cheval, en vélo et en canoë. À chaque fois, des modes de locomotion qui sont responsables et non motorisés. Et du coup, là, je suis parti, j'ai fait ce projet-là. Je suis en train d'en monter un film qui va certainement s'appeler Au bout de chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire au bout de chez soi en partant de chez soi? Et cette année, j'ai lié tout ce projet avec le Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine, dans l'idée en fait d'offrir des cadeaux à des enfants qui vivent dans la précarité sur le bassin rennais, et également pour organiser le réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre pour des personnes isolées. Donc là, j'ai passé mon réveillon de la Saint-Sylvestre avec d'autres bénévoles. On a organisé ça pour 45 personnes à peu près du bassin rennais. Et puis, du coup, durant l'année, j'ai réussi à collecter à peu près 4 000 euros. Et puis ça, c'est chouette en fait de pouvoir se rendre utile par ce qui nous anime pour d'autres personnes quoi. Et c'est un peu l'idée quoi d'essayer de continuer moi de kiffer ce que je fais en fait, de kiffer les projets, pas les faire parce qu'il faut que je les fasse. Je le fais vraiment parce que ça, c'est un truc qui naît en moi et qui m'anime à fond. Et après, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ce projet-là? Et du coup, c'est un petit peu comme ça que je construis mes projets quoi.
Alors, si on veut te contacter, bah, est-ce qu'on a des questions à te poser sur tes projets, comment tu les conçois, le financement, sur comment tu vis, comment tu fais, on peut te contacter. Bah, il y a ton site internet, hein, donc c'est en route avec Etalep. Point, je sais plus,
Comme
comme, voilà, c'est ça, oui, je l'ai sous les yeux en plus.
ouais.
En route avec etaleb.com, on peut te contacter via le site et puis sur tes réseaux sociaux aussi. Tu es sur Instagram, tu es
Oh,
sur.
ouais, essentiellement sur Instagram, un petit
Ouais.
peu sur Facebook,
Ouais,
mais
moi. Moi
moi je suis un peu la génération Instagram. Parfois on me dit, t'es pas sur TikTok? Bah non, j'arrive pas à m'y mettre et à comprendre le sens de TikTok où c'est des vidéos qu'on consomme à fond. Et en fait, moi, Instagram, c'est un réseau où c'est un journal de bord et je trouve ça chouette par rapport à ce que je fais. Et après, ouais, sur mon site internet, on peut me contacter ou Constant Pelate. Bah, je pense qu'on me trouve.
Sur LinkedIn, on te
Ouais.
trouve aussi. Du rêve au guidon, c'est ton livre. Donc, mon tour dans le monde en 813 jours et 20 000 km. Si on veut te contacter aussi, on peut passer par le biais du site parce que là, tu expliques qu'est-ce que tu organises, qu'est-ce que tu proposes. On peut discuter avec toi autour de ton voyage. Tu as sans doute des photos, des vidéos à montrer. Puis, il y a une heure de temps d'échange. Donc, pour tes conférences, c'est ça aussi. Donc, les conférences, c'est du rêve au guidon, ton tour du monde. Et il y a aussi Marcher la France, qui peut être visionné parce que tu as fait une vidéo sur ta marche à travers la France. Et on
Ouais,
peut en discuter aussi avec
c'est
toi.
ça. En fait, j'ai construit des conférences qui sont liées à mon voyage à vélo, à ma traversée de la France à pied. Il y a aussi des ciné-conférences qui mêlent un peu des deux. Par exemple, je vais être au Sportivia à Vitré où je vais intervenir.
Ah, t'es super, on va pouvoir te croiser à Vitré. Bon, bah, super.
Voilà,
C'est au mois
en
d'avril,
avril,
ouais.
c'est ça. Et puis après, en fait, ouais, j'interviens bah, pour qui veut, quoi. Et sur mon site, il y a un petit peu de plein de trucs qui sont mis.
Oui,
Il y a des vidéos, il y a
tout
des
est
articles, il y a des
expliqué.
poésies.
Voilà, ouais, et tu as fait un très joli poème, je trouve, pour ton papy. Enfin, moi, ça m'a touchée,
Ah.
parce qu'on voit une super vidéo sur ton site où il y a ton papy. On te voit arriver, revenir à Drouge au bout de 2 ans, et il y a l'un de tes papys qui a les yeux qui pétillent. Enfin, c'est
Ouais,
super
c'est.
émouvant. Enfin, moi, j'ai versé ma petite larme, je t'avoue.
Ah, bah, c'est bah, moi aussi.
Donc, voilà. Et c'est donc ton grand-père, t'a fait un joli poème qu'on retrouve dans le livre du rêve au guidon. Alors, c'est vraiment un livre sympathique, un carnet de bord, en fait, de tes voyages. On découvre aussi le Mexique, principalement, j'ai trouvé. T'as beaucoup d'attaches, hein. Tu dis, ce pays est et restera une période charnière de ma vie. Il m'a aidé à m'assumer dans cette vie d'aventurier. Je vais citer quelques passages de ton livre pour terminer. Et c'est vrai qu'on découvre avec toi le Mexique. C'est très riche. Je ne pensais pas que c'était aussi riche au niveau des communautés autochtones, au niveau des paysages. C'est vraiment quelque chose qu'on découvre à travers ton livre.
Ouais, le Mexique, ça a été un moment super important dans ce voyage et dans ma vie de façon générale, parce que c'est un peu là aussi j'ai concrétisé mes projets, où j'ai pris de l'assurance aussi pour aller toquer chez les gens, et j'ai reçu tellement de bonté humaine de personnes très différentes, quelle que soit leur catégorie sociale, leur religion, leur nationalité ou autre. Enfin, leur nationalité, pour le coup, c'était beaucoup de Mexicains, mais ouais, j'ai reçu énormément de chaleur humaine au Mexique, et puis j'ai vu plein d'endroits très très divers. Et ouais, c'est un moment important de ma vie, le Mexique, et c'est un moment un peu inattendu, parce que en organisant ce voyage, enfin, où j'avais projeté de partir en Russie, en Europe et en Nouvelle-Zélande, j'avais jamais imaginé partir au Mexique. Et au final, quand je repense à ce voyage-là, c'est clair que le Mexique, c'est bah, le pays qui a un petit peu enfin, créé tout ce projet, quoi. Ouais, c'est un moment super important, le Mexique.
Donc, le Mexique et puis toute l'Amérique centrale aussi,
Oui.
puisqu'après tu vas au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, aussi du côté de Costa Rica, Panama, et puis tu termines avec le Portugal, l'Espagne et la France.
Yes. Et après, c'est plein d'endroits magnifiques partout, mais ce que je retiens surtout souvent, c'est les gens, quoi, en fait. C'est les gens qu'on rencontre. On peut tomber dans l'endroit le plus moche au monde, et s'il y a quelqu'un de génial qu'on rencontre,
Oui.
bah l'endroit il devient fantastique, quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de rencontres aussi, et c'est aussi l'essentiel de ton livre et le tatouage. Parce que dans notre société aujourd'hui, où parfois on rencontre et puis on passe à autre chose, on rencontre et puis on passe à autre chose, toi tu aimes bien quand même laisser une trace, laisser un lien, et c'est le tatouage. Parce que tu te dis, comme ça, la personne que j'ai rencontrée, elle va toujours se souvenir de notre rencontre, de notre moment. Enfin, je trouvais ça beau. Et le tatouage pour toi, bah, tu aimes bien, tu as appris à tatouer de manière un peu autodidacte.
Ah ouais.
Et les gens te demandaient des tatouages au fur et à mesure du voyage. Au début, tu n'étais pas très rassurée. Et puis, je pense que tu t'es perfectionnée au fil du temps.
Moi,
Ouais.
l'histoire du tatouage, ça, c'était
Ouais.
pas du tout prévu non plus. Mais à un moment, je pédale avec un gars, un Argentin qui s'appelle Santiago. Et Santiago, il avait plein de tatouages sur les jambes. Un jour, je lui dis, mais tu veux pas me tatouer? Il avait jamais tatoué personne. Et du coup, il me tatoue. Là, j'ai un petit Mexicain qui boit du maté. C'était pour le rapport, on était au Mexique et lui, il est Argentin. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et c'était la première fois qu'il tatouait quelqu'un. Et je me suis dit, mais si lui me le fait, je voyais comment il faisait. En fait, c'était la méthode hand poke, bah, à l'ancienne, sans la
Ah
machine.
ouais.
Je lui dis, bah, si lui me le fait, pourquoi pas moi? Et du coup, je vais acheter le matériel, juste des aiguilles, de l'encre, et puis le minimum de matériel hygiénique. Et en fait, je prends une pièce de 1 pesos mexicain et je me la tatoue sur la cuisse. Et en fait, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, je commence à me faire d'autres tatouages sur mon propre corps. Après, un jour, je rencontre un gars, un Français, c'était à San Luis Potosí, où je lui fais un œil sur la cheville. Et là, je me dis, mais c'est le délire, quoi. J'ai tatoué un gars. Et après, l'histoire la plus étonnante, c'est quand je suis au Mexique et là, je rencontre des pêcheurs. Et en fait, les pêcheurs, ils voient mes jambes tatouées. Et là, ils me disent, mais t'as pas mal de tatouages, etc. Et pour déconner, je leur dis, vous voulez un tatouage? Est-ce que j'avais le matériel dans les sacs? Et là, ils me disent oui. En fait, il y a 3 pêcheurs qui me disent oui. Et là, je commence à tatouer les pêcheurs, mais ça me prend à chaque fois 3 quarts d'heure pour faire. Je fais une encre sur chaque pêcheur avec 25 personnes qui me regardent, alors que j'ai tatoué 3 personnes dans ma vie. Et là, j'avais la pression de malade. Et là, je me mets à tatouer les gens. Et puis au bout d'un moment, je fais stop, j'arrête de tatouer. Et quand même, je me fais l'encre sur la cuisse. Du coup, j'ai la même encre que eux, et une encre de marin. Et mais du coup, ouais, je trouve ça assez génial d'un jour retourner là-bas et de chercher.
Tu vas les retrouver grâce au tatouage.
Ceux qu'on l'encre sur l'épaule. Et après, j'ai tatoué d'autres gens, notamment Ever au Salvador, ouais, où je lui ai fait une pagaie sur la cheville, puis j'ai aussi la pagaie sur la cuisse. Après, j'avais tatoué des Anglais au Nicaragua et puis d'autres gens. Et puis, c'était drôle, en fait. Et en fait, c'est un art qui peut s'apprendre. Je ne considère pas du tout être un artiste du tatouage. C'est un peu archaïque comment je fais, mais certainement que je n'ai pas les bonnes techniques. Mais.
T'en as combien de tatouages du coup aujourd'hui?
Ouais, j'en ai beaucoup, plein de petites pièces en fait. J'en ai au moins une trentaine sur le bas du corps. J'ai surtout les jambes tatouées que le haut du corps, parce que je peux plus facilement atteindre le bas du corps avec mes aiguilles.
Après, là, ça fait longtemps. Chaque tatouage a une histoire.
Ouais.
Une rencontre, une personne derrière, quoi.
C'est ça, ouais. Chacun des tatouages, en fait, c'est une histoire que je porte sur moi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à voyager, quand j'étais étudiant, au Vietnam, je m'étais fait tatouer quelque chose. En Écosse, je me suis fait tatouer quelque chose. Au Maroc, je m'étais fait tatouer quelque chose. Et du coup, en fait, j'avais un peu associé le voyage, un tatouage, une histoire qui se passe, etc. Mais en fait, j'ai continué, mais au bout d'un moment, c'est moi qui faisais les tatouages, quoi.
Alors, je vais terminer avec quelques citations. Alors, le mot « oser », hein, je crois que j'ai surtout osé, alors je te cite, je crois que j'ai surtout osé tout ce qui me passait par la tête, ce n'est que le début. Quand oser fut le maître mot d'une démarche atypique, profondément positive et régénératrice, insufflée par la passion. Et puis là, je vais citer aussi quelques phrases, page 326, c'est vers la fin de ton livre. Mais sans rancune, chère société, je suis un atypique, dit-on. Maintenant, j'ai la vie à croquer, des projets à mener et des rêves à réaliser. J'ai la dalle pour réussir ce que j'entreprends. Je suis le seul maître à bord, je suis le capitaine de ma vie. Les matelots sont mes guiboles et autres organes victimes de mes idées. Je vous assure, chers pieds et mains, que vous verrez du chemin et que vous allez en baver. Merci à toi, Constant.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'était le podcast « Comment osez-vous ? » avec Constant Etalep, auteur du livre « Du rêve au guidon ». Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur ce podcast sur la chaîne YouTube podcast « Comment osez-vous ? » et sur les réseaux sociaux de Poseo, Instagram par exemple. Poseo.bzh. À bientôt et n'oubliez pas d'oser. Don't stop dreaming cause the setting over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause the setting over. My friend. Don't stop dreaming cause the setting over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause the setting over.